Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous aujourd'hui et pour cet été, nous vous proposons les meilleurs moments d'Accent d'Europe. On débat beaucoup en ce moment en Ukraine, et pas seulement de politique, mais aussi d'histoire. Des débats passionnés où les anciens héros tombent sans qu'on sache très bien qui doivent être les nouveaux. À l'indépendance, en 1991, le pays comptait 5000 statues de Lénine, un record pour une ancienne république soviétique. Aujourd'hui, ces statues tombent, emportées par une grande vague de décommunisation. L'histoire, avec un grand H, est en train de se réécrire. C'est le reportage de Sébastien Gobert et Laurent Gélin.
Dimitro regarde la scène avec un air désabusé. À quelques mètres devant lui, Lénine est couché sous un arbre de la décharge municipale. Il y a peu, la statue trônait sur la place centrale de la ville industrielle de Kremenchuk, dans le centre de l'Ukraine. Pour Dmitro, le changement est un choc.
C'est difficile pour moi d'être d'accord avec leur politique de décommunisation, parce que c'est une grande partie de notre histoire. Et les enfants doivent connaître tout cela, tout ce qui s'est passé au cours de notre histoire. La Seconde Guerre mondiale, bien sûr, mais aussi les relations de l'émergence des communistes et pourquoi notre papy Lénine est arrivé au pouvoir. Mais ce n'est que mon opinion.
Les lois de décommunisation adoptées en mai 2015 ordonnent entre autres le déboulonnage des statues dédiées à Lénine, ainsi que de tout symbole faisant la promotion du régime totalitaire soviétique. Des lois mémorielles adoptées à Kiev, directement inspirées de l'ouest de l'Ukraine. Dans ces régions traditionnellement anti-soviétiques et pour le moins sceptiques vis-à-vis de la Russie, la décommunisation s'est déroulée il y a plus de 20 ans. L'historien Ruslan Zabili est le directeur du musée des occupations à Lviv.
Il y a déjà des jeunes générations qui ne connaissent rien de ce bagage, ce fardeau du post-soviétisme. C'est une sorte d'héritage criminel qui leur est étranger. C'est une bonne chose parce que les jeunes générations ne veulent pas construire leur avenir à partir de cet héritage.
Une grande partie du pays, notamment à l'Est, fait preuve d'une certaine nostalgie pour l'époque soviétique. Mais pour Ruslan Zabili, cela ne peut pas être pris en compte.
Ces gens qui défendent l'héritage soviétique, ses traditions et tout ce qui va avec, ce sont des gens qui ont donné les meilleures années de leur vie pour construire l'URSS. Ils vivent dans le passé. Il y en a beaucoup, mais ils ne sont plus actifs, ils sont retraités.
Un retraité qui n'est pas nostalgique de l'époque soviétique, c'est Yuri Shurevitch, 83 ans. C'est le fils de Roman Shurevitch, un célèbre nationaliste des années 1940, chef de l'armée insurrectionnelle ukrainienne. Yuri Shurevitch est aujourd'hui député et c'est l'un des pères des lois de décommunisation.
C'est une histoire terrible dont il faut nous délivrer. Imaginez un homme qui viendrait chez vous. Il casse tout, il vous bat, il épouse votre femme et vous prend vos enfants. Ensuite, il accroche son portrait au mur et il s'installe. Et quand vous voulez le retirer, quelques années plus tard, ce sont vos enfants qui vous en empêchent, au prétexte que cela fait partie de l'histoire.
Yuri Shurevitch sait très bien que son père Roman, avec le principal leader nationaliste Stepan Bandera et l'armée insurrectionnelle ukrainienne, sont très controversés. Pour lutter contre les soviétiques, ils ont un temps collaboré avec les nazis et ils se sont à l'époque rendus coupables d'exactions multiples contre des juifs et des polonais. Mais pour lui, la fin semble justifier les moyens. Et l'agression russe contre l'Ukraine à partir de 2014 donne raison aux actions de son père.
J'étais à la télévision il y a quelques temps et j'étais sur le plateau avec un homme des régions de l'Est. Il a raconté qu'avant, il croyait que les Ukrainiens de l'Ouest étaient des fascistes sanguinaires. Mais il a réalisé que les Ukrainiens de l'Ouest avaient raison dans leur combat contre les Russes.
À la faveur des lois de décommunisation et de la guerre hybride entre la Russie et l'Ukraine, on assiste à l'émergence de nouveaux héros nationaux qui flattent la fibre patriotique des Ukrainiens. Ruslan Zabili.
Cela s'explique par le fait que les Ukrainiens ont de sérieux complexes d'infériorité dans la perception de l'histoire. Mais il faut se donner les moyens de discuter de tout cela, de ne pas réinterpréter l'histoire, ne pas faire de spéculation sur l'histoire, parler librement de Stepan Bandera, de ses aspects positifs et négatifs.
Le débat historique qui agite en ce moment l'Ukraine est très vivace dans les médias et les universités. Il déterminera les programmes d'histoire des futures générations d'écoliers. Mais pour Volodymyr Vorobé, jeune entrepreneur social à Lviv, c'est un faux débat. La réelle décommunisation se fera dans les esprits et les comportements.
Ces 80 dernières années, nous avons vécu à l'ère du paternalisme. Il y a un dicton en Union soviétique qui disait, par exemple, que l'initiative est punissable. Et plus vous allez vers l'Est, plus ce paternalisme est marqué. Si nous voulons changer, nous devons d'abord changer cette attitude. Il faut que les gens comprennent qu'ils doivent prendre leurs responsabilités, qu'ils ne considèrent pas l'État comme quelque chose d'inaccessible et de miraculeux, mais comme au contraire le résultat d'une volonté commune.
Dans une Ukraine paralysée par une guerre hybride, une grave crise économique et une corruption endémique, c'est bien un nouveau projet du vivre ensemble qui manque. Il en faudra plus que quelques statues de Lénine jetées à terre.
Ce sont des initiatives citoyennes qui font le tour de la planète. L'idée vient d'Iran et elle a atterri à Palerme en Sicile. Le projet est étrangement simple. Sur une ficelle accrochée à un mur, des habitants ont écrit « Prenez ce qui peut vous servir ». Cela s'appelle le mur de la gentillesse. Chacun y dépose et prend ce qu'il souhaite. Le lieu pourrait devenir un vrai point de rencontre et de solidarité. Reportage dans un des quartiers emblématiques du centre populaire de Palerme avec Cécile Debarge.
Un fil tendu entre deux clous et voilà une corde à linge accrochée à l'une des façades de la Via del Celso, en plein cœur du centre historique de Palerme. Un petit mot écrit au feutre noir explique qu'il s'agit du premier mur de la gentillesse de la ville. Qu'est-ce qui se cache derrière cette expression déroutante? La réponse en un slogan avec Petra Catano, l'une des jeunes participantes au projet.
Si tu as besoin de quelque chose, prends-le. Si tu n'en as pas besoin, prends-le. Voilà, ça veut dire qu'en fait, on se débrouille avec ce que l'on a, des fils, des bouts de bois, tout ce qu'on a sous la main afin de créer un endroit pour laisser les objets que l'on veut donner pour que ceux qui en ont le plus besoin puissent les prendre.
L'initiative est née en Iran et s'est répandue comme une traînée de poudre grâce à Facebook. Depuis plusieurs semaines, les murs de la gentillesse se sont invités à Florence, à Bologne, à Parme ou à Rome et depuis peu à Palerme. Les habitants y déposent d'abord quelques vêtements, quelques livres, d'autres les récupèrent. Mais la rue est trop passante et les voitures prêtes à klaxonner bruyamment si les curieux s'attardent. Peu importe, l'idée est lancée. L'association de quartier, dit Sana Pianta, déménage alors le projet dans une ruelle toute proche, la Discesa degli Schiavoni, la descente des esclaves en français.
L'histoire dit que dans l'ancienne Palerme arabe, cette petite ruelle était celle par laquelle passaient les esclaves pour monter et descendre sur les navires, puisque là en bas, vous aviez le Papireto, l'ancien fleuve de la ville. Et ça nous a semblé intéressant de rendre cette ruelle, qui était celle des laissés pour compte, à ceux qui sont laissés pour compte aujourd'hui.
L'endroit est calme, niché entre un immeuble à l'abandon et deux ruelles pavées. Tellement calme d'ailleurs qu'il attire parfois quelques trafiquants de drogue. Alors, autour du mur de la gentillesse, les habitants imaginent une ruelle prête à accueillir toutes les délicates attentions. Avec un budget de 0 euro, mais l'aide d'étudiants de l'Académie des Beaux-Arts et de quelques voisins, ils imaginent un véritable espace de partage, raconte Petra Catano.
Par exemple, ce serait super qu'en passant ici, on puisse accrocher une petite poésie, laisser un livre qui nous a beaucoup plu, venir jouer une scénette de théâtre, il y a l'embarras du choix.
Pour rassembler toutes les idées, l'association a organisé une première assemblée citoyenne ouverte à tous les habitants. Le premier grand ménage dans la ruelle est prévu dans quelques jours avec les moyens du bord. Quelques balais, de grands sacs poubelles, des pots de peinture et surtout beaucoup de bonne volonté.
La chronique des jeunes européens.
Bonjour Avmino.
Bonjour Frédéric.
Les jeunes européens sont-ils tous des pirates? Il ne s'agit ni du parti politique allemand, ni du capitaine Crochet sans doute, mais plutôt de leur comportement vis-à-vis de la consommation des biens culturels via Internet.
Eh bien on en sait un peu plus grâce à une étude publiée ce mois-ci par l'Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle. Oui, ça existe. Elle s'intéresse cette étude au comportement sur le net des jeunes européens entre 16 et 24 ans et permet d'établir qu'un jeune sur quatre en Europe a utilisé l'année passée intentionnellement des sources illégales pour accéder à des contenus en ligne.
Et quel genre de contenu?
Alors des films bien sûr, mais pas seulement, surtout les séries télévisées, suivies ensuite par la musique et les jeux, qui sont aussi les biens culturels les plus téléchargés sur le net par les jeunes européens. Parmi les raisons invoquées, évidemment la facilité d'accès, la rapidité des téléchargements, qui rend généralement l'offre illégale supérieure à l'offre légale, et bien sûr le coût. Globalement, les jeunes d'ailleurs ne culpabilisent pas du tout de regarder des contenus obtenus illégalement tant que c'est pour un usage personnel, même si 6 jeunes interrogés sur 10 affirme qu'il cesserait d'utiliser ses sources illégales pour accéder à du contenu légal si c'était plus abordable et plus disponible.
Et quels sont les pays les plus concernés ?
Alors, il semblerait que dans ce domaine, les petits Français soient de véritables champions. 34% des jeunes Français ont déclaré qu'ils avaient intentionnellement utilisé ces sources illégales. Alors, étaient-ils particulièrement honnêtes en répondant aux questions du questionnaire ou seulement plus pirates que leurs camarades européens ? On ne sait pas. En tout cas, parmi les pays étudiés, seuls les Pays-Bas surpassent ces résultats. Dans l'ordre après les Français, on retrouve les Espagnols, les Belges, les Autrichiens, les Italiens et enfin, à moins de 20% de petits pirates, le Royaume-Uni et l'Allemagne.
Et est-ce parce que les autorités nationales chargées de réguler la circulation des biens culturels sont plus efficaces ailleurs ?
C'est possible. En tout cas, en France, la HADOPI, la Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des Droits sur Internet, 6 ans cette année, a passé cette semaine les 7 millions d'avertissements quand même. Mais le système de réponse graduée qu'elle a mis en place peine encore à intimider les internautes, peut-être parce que l'on sait que les condamnations à payer des amendes sont encore très peu nombreuses, à peine une trentaine depuis sa création, depuis 2010.
Et ailleurs, en Europe ?
Alors, en Grande-Bretagne, après des années de mails d'avertissement pas très effectifs, la justice s'est saisie du dossier et oblige aujourd'hui les fournisseurs d'accès à bloquer certains sites de téléchargement, tout simplement. Quant à la Suède et l'Allemagne, deux pays européens qui incarnent à leur manière aujourd'hui un peu la culture pirate, ils ne sont pas en reste. L'une a longtemps hébergé The Pirate Bay, l'un des plus grands sites de téléchargement illégal au monde, et l'autre a vu croître il y a quelques années la popularité de son parti pirate. Pourtant, ces deux pays mènent une chasse effrénée aux jeunes pirates, chacun à leur manière. En Suède, les poursuites se concentrent autour des uploaders, ce sont ceux qui mettent à disposition des autres sur le net les biens culturels, tandis que l'Allemagne fait tomber une pluie d'amendes sur ceux qui téléchargent cette fois-ci sans passer par la case avertissement.
Et que risquent les contrevenants, Eve ?
En Allemagne, ça ne rigole pas. L'État a délégué les pouvoirs de police du net, en quelque sorte, à des sociétés privées. Et les amendes vont d'une centaine à un millier d'euros environ par fichier téléchargé. Ça fait cher la nouvelle saison de votre série préférée.
Après la nourriture et les boissons bio, voici peut-être venu le temps des teintures bio pour l'agroalimentaire, mais aussi le textile ou la cosmétique. Le E120, c'est son nom, qui paraît bien peu écologique, est en fait une teinture naturelle rouge extraite d'un insecte, la cochenille. Aujourd'hui, le Mexique, l'Amérique du Sud et l'Afrique du Nord sont les principaux producteurs, mais l'Espagne, et plus particulièrement l'archipel des Canaries, pourra bien les rejoindre avec l'appellation d'origine contrôlée délivrée par Bruxelles, des agriculteurs rêvent de relancer une activité qui fit jadis la richesse de l'archipel. Reportage sur la cochenille signé Laurent Berthaud.
Le geste n'a pas changé depuis les années 50, 1850. À l'aide d'un petit cône métallique fixé au bout d'un bâton, on frotte les raquettes des cactus pour récupérer des grappes de cochenille, des petits insectes gris de moins d'un centimètre de long.
Vous prenez un poing. Et ainsi d'amis la masse.
Sitôt récoltées, les cochenilles sont alors tuées. Pas de produits ou de techniques high-tech, il suffit juste de les secouer dans de grands sacs de toile, comme nous le montre Lorenzo Pérez à la tête de la société Canaturex. Elles sont mises ensuite à sécher sur de grandes claies, ce qui prend de 6 à 20 jours selon la saison. Et pendant tout ce temps, il faut régulièrement les brasser pour les aérer.
Cette année, j'ai déjà produit 2 tonnes de cochenilles. La plupart du temps, elle est destinée à l'alimentation. Mais j'en ai aussi vendu un petit peu à une association française, Couleur Garance, qui fait la promotion des colorants végétaux, ainsi qu'à un fabricant de teintures naturelles français bien connu, Michel Garcia. Ils sont très intéressés par notre production locale. Mais oui, l'essentiel sert à l'alimentation, un marché qui est dominé par l'Amérique latine.
Et cette demande la couvre la Latinoamérique.
À la tête de l'association des éleveurs et exportateurs de cochenilles des îles Canaries, Lorenzo Pérez n'a pas voulu baisser les bras en 2010, quand la crise a encore réduit le nombre de producteurs.
On a les cactus, on a les cochenilles, mais les rares personnes qui continuent à les récolter ont 80, 90 ans maintenant. La culture a été délaissée. C'est dû à la globalisation, au manque de main-d'œuvre provoqué par l'immigration. C'est pourquoi nous nous sommes battus dernièrement pour l'appellation d'origine protégée. En février, Bruxelles nous l'a accordée et cela va nous permettre d'obtenir des subventions. Avec ces aides, nous allons pouvoir relancer la culture. Ici même, il y a déjà un groupe de 25 jeunes agriculteurs qui vient se former. Et moi, je peux leur apprendre, car mes parents et mes grands-parents ont toujours récolté les cochenilles. Comme ça, on pourra combattre la crise qui sévit aux Canaries dans le secteur agricole.
Le plan est ambitieux. Alors que la production actuelle est de 10 à 15 tonnes tous les deux ans, les producteurs visent 60 à 80 tonnes par an, avec comme objectif 500 emplois contre une poignée de producteurs aujourd'hui. Pour cela, il faudrait que Bruxelles verse 14 millions d'euros par an, ce qui permettrait de rendre concurrentiel un produit de haute qualité. Pour l'instant, seules les cochenilles sont exportées, car les Canaries n'ont pas encore d'industrie qui leur permette d'extraire le carmin, ou alors très artisanalement, comme sur l'île de Lanzarote. Chana nous reçoit au siège de l'association Milana, qu'elle a contribué à créer en 2005, et où l'on découvre toute une gamme de produits estampillés cochenilles. Évidemment, ici, dans cette pièce, tout est dans la tonalité rouge, du ton les plus blancs, rosés, au rouge les plus éclatants.
Est-ce que c'est le produit naturel que se peut comer?
Donc ici, sur la table, on a toute une série de produits qui sont fabriqués à partir du 120, la cochenille. On a du rouge à lèvres, on a du sirop de fraise, on a des saucisses, on a du yaourt. Donc Chana, si je vous comprends bien, ici, dans ce centre, on fabrique du carmin, on teint des vêtements, on tisse, on imprime, on fait plein de choses, en fait, à partir de la cochenille, à partir de cet insecte.
Oui, il y a plein de choses à faire avec les cactus et la cochenille. Régulièrement, nous organisons des repas et des fêtes pour essayer de faire prendre conscience aux gens que nous disposons ici d'une richesse potentielle qui est tombée dans l'oubli. C'est une association qui prend également en charge des jeunes pour leur montrer comment on va dans les champs, comment on reconnaît la cochenille, comment on la traite, comment on l'accueille. Dans peu de temps, va s'ouvrir ici à Malin une entreprise de transformation du carmin. Notre association, aussi artisanale soit-elle, sera là pour transmettre le savoir-faire. Je suis passée par La Rochelle en France il n'y a pas longtemps et j'ai été surprise de voir à quel point ils sont en avance dans les techniques de teinture utilisant des produits naturels. Alors, pourquoi pas redonner à la cochenille toute sa valeur, surtout ici à Lanzarote où on l'a si longtemps délaissé.
D'autant que la demande pour la cochenille sous toutes ses formes est de plus en plus forte. Il suffit de rester quelques instants devant le stand de Gemma González qui propose ses textiles sur les marchés de la région.
Je travaille avec toutes les teintures naturelles, notamment la cochenille. Je suis d'ailleurs la seule à travailler la cochenille.
Et ce sont surtout les touristes qui achètent ?
Oui, mais pas seulement. Les gens d'ici aussi. Ce n'est pas courant de voir ce genre de travail. La teinture naturelle a été abandonnée au profit des teintures chimiques. Moi, je trouve ça intéressant parce que ce sont des produits de la terre, des produits naturels. Cela fait partie aussi de notre histoire. C'est aussi une culture qui a façonné nos paysages. Ça me paraît important que toute cette histoire soit préservée.
Et vous-même, comment avez-vous appris à travailler à la cochenille ?
En effectuant un voyage au Mexique, c'est là que j'ai appris, et aussi au Maroc. Ce sont des pays où ils l'utilisent beaucoup.
Seul producteur européen de cochenille, les Canaries ont tout intérêt à la valoriser. Alors qu'un kilo de cochenille se vend de 55 à 65 euros, le carmin, lui, se négocie aux alentours de 150 euros le kilo.
Était réalisé aujourd'hui par Guillaume Munier. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr.